Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi en direct 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Et ma foi, il y a des choses très intéressantes. Il y a un petit bijou au Théâtre des Martyrs, c'est Les Mains Sales de Jean-Paul Sartre, mise en scène, un travail d'orfèvre par Philippe Sireuil. On en parlera en première partie d'émission. On ira faire aussi un tour du côté du public pour Les Filles aux Mains Jaunes. On aura Catherine par téléphone qui a aussi vu Exil au Théâtre des Martyrs. Et on aura enfin Elisabeth qui, en cours de route, va nous rejoindre pour Sainte de l'Incendie à voir au Théâtre Poème avec Laurence Vieille. Et on vous parlera de quelques annonces, notamment la scène flamande, danse, performance, en fin d'émission. Mais là, bonjour Nicolas.
Bonjour, bonsoir.
Alors Nicolas, on a tous vu, fameuse belle... belle production pour l'instant. Hein. On a eu Vania de Sermé qui continue, qui cartonne, et ce fameux Les Mains Sales de Sartre, mise en scène par Sireuil.
Comme quoi, hein, les classiques. Ça marche encore, le répertoire. Les Mains Sales, oui, Jean-Paul Sartre. Une pièce qui marque une rupture, ou en tout cas qui est une pièce profondément politique de Jean-Paul Sartre. Il se penche sur son cas, mais aussi sur ceux de ses camarades, on peut dire, puisque ça relate un peu une guerre intestine au Parti communiste et aussi un regard de ce côté-ci du rideau de fer sur ce qui se passait à l'Est, évidemment. Concrètement, c'est l'histoire d'un homme qui revient après avoir purgé sa peine pour avoir assassiné un haut placé du Parti communiste, alors que lui-même était membre du Parti communiste, mais apparemment, il différait sur certaines idées. En tout cas, c'est ce qu'on croit au début. On n'en dira pas plus parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de suspense. Et toute cette pièce, eh bien, va nous raconter un petit peu, va nous parler de la question de l'engagement en politique, comment ça doit se traduire dans des actes concrets. Est-ce que ça doit juste rester sur le côté, ou est-ce qu'on doit pouvoir négocier, j'ai envie de dire à la belge, pour pouvoir avancer et ne faire la politique des petits pas pour aller vers l'idéal, la lutte des classes, etc., etc. Et c'est ce texte qu'a choisi donc Philippe Sireuil de nous placer sur le plateau du théâtre de la Place des Martyrs, dans une coproduction avec la Suisse, c'est du théâtre de Genève également. Et qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit de faire, j'ai envie de dire, du Philippe Sireuil, mais du beau Philippe Sireuil, c'est-à-dire de la mise en scène, de la vraie, de la mise en espace et de la mise en lumière qu'on lui connaît tout à fait parfaitement. Alors, en gros, il respecte tout à fait le texte de Sartre et il l'habille évidemment avec différentes choses. Il dirige d'abord de très bons acteurs qui parviennent à nous fournir ce texte qui est assez dense, mais qui n'est pas pesant, puisque ça reste quand même un certain suspense. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de cet homme, que ce soit dans les faits, tout simplement, mais aussi dans son cheminement idéologique, philosophique et politique. Il apparaît un peu comme un simple, un novice qui arrive et qui découvre un petit peu la vie politique avec aussi un mentor qui est là et qui est prêt à pactiser, on va dire, ou en tout cas à négocier un accord avec d'autres partis. Et c'est ça qui va poser problème en interne de ce parti communiste.
Mais justement, il y a tout l'univers existentialiste Sartre qui est sous cette pièce. Il dit que c'est une pièce sur la politique, donc pas une pièce politique. Oui. Et ce qui est intéressant, Sartre disait l'existence précède l'essence. Mmh. Et ici, on voit justement, Philippe Sireuil fait une référence brechtienne dans ses notes d'intention. Nicolas rigole toujours quand je parle de Brecht, mais il parle des lehrstücke de de brèches, ces petites pièces de didactique à jouer où il y a un problème qui se pose aux acteurs qui doivent être résolus. Et on est vraiment là-dedans. Donc le personnage principal, on va dire l'anti-héros qui devient finalement héros, Hugo, est lui-même un intellectuel bourgeois. Donc ça veut dire quand même quelque chose. La pièce est écrite en 48, mais on nous met entre 42 et 45. Donc Hugo rentre dans ce parti pour ses raisons, un peu la révolte aussi contre le père, et il est toujours, il n'est jamais vraiment accepté quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche l'action directe, il veut absolument l'action. Lui, l'homme de livre et l'homme d'écriture, veut l'action directe. Et toute la question est, est-ce qu'il est récupérable ou irrécupérable pour le parti après son acte? C'est ce qui, c'est la question qu'on pose et que lui-même va se poser. Et à la fin, il dira finalement, non, je ne suis pas récupérable. Et là, il accède à sa liberté. Donc, il y a vraiment l'existentialisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à tous les autres personnages. Moi, ce qui m'a fort marqué, c'est par exemple, donc, il devient secrétaire de ce chef de parti pour pouvoir l'assassiner. Il se lie d'amitié, même s'il est pas spécialement d'accord sur ses positions politiques. Le chef de parti, le chef, le grand chef, lui, est un peu la droite, on va dire, du Parti communiste, va chercher le compromis et pas avec n'importe qui, avec un parti d'extrême droite et avec le château ici, le qui château, est le prince. Oui. Et donc, se pose la question. Et alors, ce qu'il y a, c'est que finalement, l'acte d'assassinat se fait bêtement.
Mais oui, vraiment, on n'en dit pas plus parce que ça, c'est vraiment, mais c'est vraiment, en effet, ça pose cette question-là, comme tu disais, et en effet, ça se fait bêtement, et, mais, et ça pose la question.
Mais il prend conscience, c'est ça, et il défend cette conscience. Alors moi, j'ai noté une citation qui, moi, m'a fort marquée, et on peut penser, ce que je me suis dit, c'est que ça, ce texte fait du bien aujourd'hui. Moi, j'avais lu ce texte à 20 ans, et je l'avais trouvé très lourd, peut-être je n'avais pas tout compris, donc j'y allais avec des pieds de plomb, et ce qui est fascinant dans ce spectacle, c'est à la première note, à la première lumière jusqu'à la fin, on est pris de bout en bout, ça dure 2h30, et il y a cette citation de Hugo qui à un moment donné parle de l'ordre, et il dit, donc avant de faire son acte, parce que c'était l'ordre du parti, hein, il n'y avait plus d'ordre, ça vous laisse tout seul les ordres à partir d'un certain moment. L'ordre est resté en arrière, et j'avançais seul, et j'ai tué tout seul, et je ne sais même plus pourquoi. Et donc on est dans ce genre de dialectique ou de réflexion où on est tout le temps constamment, le cerveau est constamment pris. Et on ne donne pas raison à l'un ou tort à l'autre, on suit et on se dit qu'est-ce qu'on fera, nous. Et on voit vraiment à un moment donné comment tu poses ton acte, où t'es conscient de ce que tu fais. Et alors ce qui est beau, c'est que lui descend avec sa femme, là, cette femme qui est une comédienne flamande, mais hollandaise je crois, époustouflante, qui est vraiment une espèce de Marilyn, la bimbo avec à peine deux neurones, et qui à un moment donné, dans un geste de cri, prend conscience de son aliénation, on va dire.
Mais ce personnage est intéressant parce qu'il pose lui-même la question, est-on obligé de s'engager ou d'agir d'un côté ou de l'autre? Et elle pose la question tout simplement, et c'est vraiment toutes les positions qui sont ici exposées dans cette pièce, donc des mains sales.
Et le chef de parti, lui, il dit de toute façon sa position, on fait le travail pour lequel on est doué. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, l'homme libre est-il libre d'un prétendu destin ou d'une vocation? On est dans ce cheminement. C'est une pièce vraiment, on va envie de dire intellectuelle, parce que c'est Sartre et tout ça, mais en même temps, il y a tellement de chair. Philippe Sirois a réussi à donner tellement de mouvement et de chair à cette pièce. Et alors moi, ce qui me fascine chez Philippe Sirois, c'est à chaque fois que je le vois mettre en scène, je me dis, il emmène ses acteurs et ses actrices dans un point de travail d'excellence qui reste assez époustouflant. Et là, on voit tout le travail de metteur en scène. Moi, j'ai été scotché par
ce qu'il faudrait dire aussi, parce qu'on parle beaucoup de thèmes lourd ou en tout cas consistant de cette pièce, mais il y a aussi beaucoup d'humour, il y a des points d'humour qui sont apportés par certains personnages. Il y a Etique Elbaz là dans ce personnage du prince qui est assez formidable aussi.
Mais tout est fait, les costumes, la scène, mais par exemple juste la scène d'humour où on voit la finesse de Sirois. À un moment donné, ils sont en négociation, chef du parti, le chef de la droite nationaliste et le prince qui représente un peu le château et l'aristo, et ils utilisent trois micros alors qu'on peut très bien les entendre. Et c'est des micros qui eux-mêmes déconnent complètement. Donc on est dans une scène de discours un peu comme on voit les mecs qui discutent et qui font des concessions ou pas. Et tout ça a quelque chose de farce et de grotesque. Donc c'est vraiment, quand il disait c'est une pièce sur la politique et pas la politique, c'est là où on se dit chapeau, et finalement je verrai les mains sales de Sartre tout à fait différemment. Et Sirois a réussi à mettre ça au goût du jour et à faire vraiment un bijou.
Et Parlons aussi, donc, on connaît les talents pour la mise en lumière, évidemment, qui joue son rôle ici, et aussi pour l'insertion de quelques extraits de films. On a du Truffaut, on a un film avec Steve McQueen, si je me souviens bien aussi, on a du Godard. Alors, parfois,
il y a Sartre, il y a la voix de Sartre au début.
C'est un peu déroutant parce qu'il faut peut-être le temps pour relier un peu tous ces éléments, mais en tout cas, ça ne coupe pas l'histoire, c'est juste pour les changements de décor. Et voilà.
Oui, mais j'ai trouvé ça encore très fin, parce qu'au lieu de mettre juste de la musique, on pourrait voir, et en plus, c'est des vidéos assez significatives qui se répondent. Bon, il y a Truffaut, il y a la voix de Sartre, il y a Steve McQueen à la fin. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un beau travail. Et ce que je me disais, c'est que parfois, on voit un spectacle et on cherche ce qui ne pourrait pas aller. Tu vois, le petit déchet dans le coin, on se dit, bon, allez, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on est tellement surpris de tout aimé, de se dire que tout a une cohérence, un travail d'orfèvrerie jusqu'au bout, pour une pièce qui, franchement, je crois que la pièce de Sartre, ils avaient tous les publics contre lui, hein, c'est plus une pièce qui est jouée, donc il le dit très bien dans son explication sur eux, c'est un peu seul contre tous, et c'est un pari qu'il a relevé.
Et j'ai été dans une séance où il y avait des scolaires et ça se plaçait et ça se suivait. Il n'y avait rien qui bronchait, en tout cas dans la salle pendant le spectacle. 2h30, il faut le dire, mais comme on le disait, ça se suit. Il y a tout dans cette pièce. Donc,
Suspense. Et puis les questions que ça pose. Voilà. Rien qu'à penser à son acte qu'on peut poser et la démonstration de l'un et l'autre. Et on est pris ni pour l'un ni pour l'autre, mais on suit le cheminement. Non, c'est assez remarquable. Les mains sales, moi, je crois que c'est le spectacle que je recommande depuis... Depuis quelques mois, je n'ai pas vu un si bon spectacle.
Les mains sales, donc, Jean-Paul Sartre, Philippe Sireuil, c'est à voir jusqu'au 28 novembre du côté du Théâtre de la Place des Martyrs. Et voilà Elisabeth qui nous a rejoint.
Ouais, j'espère que ce sera prolongé ou repris. Mmh. C'est le genre de spectacle qu'il faut faire tourner. Elisabeth, tu nous as rejoint. Toi, tu es partie au Théâtre Poème pour voir Sainte de l'Incendie.
Sainte dans l'Incendie.
Dans l'Incendie.
Carrément dedans, carrément au bûcher. Jeanne d'Arc, évidemment.
Je me demande si elle n'est pas passée à Avignon avec ce texte.
C'est possible, parce que c'est un texte d'un auteur français qui a été créé en France, effectivement. Et elle, c'est Laurence Vielle, qui est une comédienne bien belge. D'ailleurs, la presse française l'a saluée. Et c'est une comédienne qui a son petit cachet, on la connaît bien. Elle a une silhouette, elle a aussi une voix un peu rauque, une voix un peu sur le souffle. Elle a aussi un univers particulier. Et en fait, elle met tout ça au service et de Jeanne d'Arc, et surtout d'un texte. Alors, un texte qui n'est pas n'importe lequel, un texte de Laurent Fréchuret, qui a mis des années à écrire ce texte et qui est un texte poétique. Donc, on est vraiment dans quelque chose de clair au départ. On est dans un texte qui évoque évidemment tout le parcours de Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, c'est finalement un des personnages qu'on connaît le mieux du Moyen-Âge. Ça nous ramène quand même en 14-12. Donc,
Sartre.
Oui, mais bon, là, on plonge.
L'histoire de Jeanne d'Arc est passionnante.
L'histoire de Jeanne d'Arc est effectivement passionnante. On n'en sait pas grand-chose. Enfin, on voit un peu les moutons, on voit un petit peu la campagne du côté de Rouen. Puis il y a les Anglais, puis il y a le bûcher. Voilà, pour moi, c'était à peu près tout. Et en fait, c'est un spectacle qui m'a vraiment scotchée. Parce que c'est une vraie performance, à la fois au niveau de porter un texte comme ça, qui est un texte sur la métaphore, qui est un texte imagé, ouvragé, vraiment, on sent qu'il y a une langue. Et puis c'est un texte, c'est quelque chose qui nécessite une écoute particulière. Et je dois bien dire que c'est la première fois, mais vraiment, j'ai le souvenir d'avoir été dérangée par le bruit des projecteurs. Tellement il y avait un silence habité dans la salle, en fait. Alors, on est face à un plateau nu, dans un cube en béton, il n'y a rien. C'est vraiment du théâtre minimaliste, une incarnation, une comédienne, une voix, des images mentales, pas de vidéo.
Ça fait du bien de temps en temps.
Oui, voilà. Alors, il faut pour ça aussi rajouter que ce que Laurence Vielle apporte, c'est un petit côté un peu clownesque quelque part, sans être souligné, un petit côté conteuse aussi. Donc, elle va vraiment nous chercher, elle nous emporte et on la suit. On la suit dans l'évocation de Jeanne d'Arc depuis l'enfance jusqu'au bûcher. On suit la trame et parfois on se perd un petit peu parce qu'il y a vraiment le texte et puis hop, on est repris par une image. Et c'est vraiment ouvragé, enfin voilà, et chaque fois il y a une nuance, il y a des parties du texte qui ne sont pas vraiment triviales, mais Il y a des cassures dans le texte, il y a du rythme. Enfin bon, vraiment, voilà, une vraie performance et je n'en suis pas encore revenue.
Ah, donc un solo sur Jeanne d'Arc, voilà, oui. Qui est très singulière. Elle a une voix singulière qui se
reconnaît. Tout à fait, mais c'est un spectacle singulier. Et donc voilà, je crois que si on aime le texte, si on aime le théâtre dans son essence... Pourquoi pas, c'est quand même une heure quart.
Et moi, je vais faire ma propagande. Allez voir d'abord les mains sales et puis aller au poème.
Mais non.
Sainte dans l'incendie de Laurent Fréchurier avec Laurent Ziel, c'est à voir jusqu'au 30 novembre, oui. Du côté du Théâtre Poème.
Et c'est du jeudi au dimanche.
www.théâtrepoème.be. Un peu de musique.
Une petite musique, alors écoutez-la bien parce que ça va être la musique d'un spectacle à voir demain. Donc Catherine va nous en parler un petit mot après.
La conspiración.
Voici un extrait donc, du spectacle Asobi des Balaissés de la Baie. Nurten, tu nous en dis plus peut-être dans
donc
quelques instants.
C'est un focus, les Balaissés de la Baie, d'Alain Platel. On dit toujours Alain Platel, les Balaissés de la Baie, mais il a fait des petits enfants. Et donc il y a un focus. Demain, c'est Kaori Ito qui danse Asobi. Mais si on a Catherine au bout du fil, Catherine est partie la voir de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Flandre, chez nous. Allô Catherine ?
Oui, allô ?
Donc toi, tu as vu Asobi ?
En effet, j'ai vu le très érotique Asobi de Kaori Ito.
Dès que c'est érotique, c'est pour toi, c'est pas possible.
Ben écoute, en tout cas, c'est érotique sans être vulgaire. Mm-hmm. C'est très réussi. Elle explique que Asobi, en japonais, ça veut dire lâcher prise, vertige. Et ça renvoie aussi au jeu d'adulte, donc forcément un peu érotique. Et qui apparemment, au Japon, sont réservés aux hommes. Mmh. Donc Kaori Ito a décidé d'aller contre cela et ils sont quatre sur scène, deux hommes, deux femmes. Et les hommes comme les femmes se lâchent dans des scènes fantasmées, animales, bestiales.
Est-ce que c'est la danse théâtrale ou c'est plutôt minimaliste avec un côté japonisant ou elle a d'autres références ?
Non, c'est pas du tout japonisant, c'est pas du tout sobre. La musique, vous l'avez entendue, c'est assez rythmé. Mm-hmm. Et les danseurs sont... Voilà, il n'y a pas d'histoire, mais on comprend qu'il y a des étreintes qui se font, qui se défont entre les personnages. Il mm-hmm. y a des femmes qui s'aiment autant que les hommes, entre elles. Mm-hmm. Et puis surtout, tout ça se fait en face d'un miroir sans teint.
Ouais.
Et donc, il y a un effet déformant comme ça. Et puis nous, le public, on se voit aussi un petit peu. Donc, il y a un côté voyeur. Mmh. Donc esthétiquement c'est réussi et c'est emballant.
Eh bien moi j'irai le voir demain, donc c'est une date, hein, c'est le 20, le jour de la Saint-Vé.
C'est jeudi, ben oui, après le cortège, on passe du côté des ailes
d'escarbée. La bière et l'érotisme, quoi qu'avec la bière, il y a aussi l'érotisme parfois à la Saint-Vé.
Et c'est à 20h30, www.al.be, pardon.
Catherine, tu as vu aussi plein de spectacles pour nous, tu as vu Les filles aux mains jaunes au public, on entend des bons échos de cette pièce.
Oui, Les filles aux mains jaunes, je le conseille absolument. Alors là, on change complètement de registre, même si c'était encore quelque chose de très féminin. C'est pourtant un homme qui l'a écrit, Michel Bélier, qui prend un point de vue intéressant parce que rarement évoqué, c'est celui des femmes pendant la Grande Guerre. Mmh. Normalement, quand on parle de la guerre 14-18, On parle des poilus, des tranchées, des gueules cassées, la bataille de l'Isère et compagnie. Mais on parle peu des femmes qui sont restées derrière et qui quand même ont fait tourner cette guerre puisque beaucoup ont travaillé dans des usines. C'est le cas des quatre comédiennes qui sont sur scène, qui incarnent quatre ouvrières dans une usine où elles fabriquent des obus à la chaîne. Wow. Et les mains jaunes, pourquoi ? Parce qu'en fait, elles manipulent des produits explosifs toxiques comme la TNT. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont y passer puisqu'elles travaillent comme ça sans protection. Mais ce qu'on suit surtout, donc on suit les conditions de travail inhumaines dans ces usines-là, mais on suit surtout la conscience féministe qui va s'éveiller alors que ces femmes découvrent qu'elles peuvent se battre pour leurs droits, qu'elles ont une place à prendre dans la société, qu'elles sont aussi femmes avant d'être mères et épouses. On sent que maintenant que les hommes sont partis, elles se posent des questions, elles se rendent compte que sans elles, la guerre ne tournerait pas.
Est-ce que c'est situé dans le temps? Je veux dire, est-ce qu'on sait dans quel pays on est?
On imagine qu'on est en France. Par contre, ce qui est très réussi, c'est que là, par contre, c'est complètement épuré. Il n'y a pas un gramme d'acier alors qu'on est quand même dans une usine d'armement. Il y a simplement un décor très sobre. Il y a un violoncelliste qui est là sur scène en direct. Et les notes au violoncelle suffisent par exemple pour évoquer la cadence du travail à la chaîne.
Ah, c'est bien trouvé ça.
Les lumières projettent des ombres en dessous des yeux des comédiennes pour évoquer la fatigue. Et puis on les voit faire des gestes comme ça invisibles sur des machines et on comprend le quotidien répétitif que c'est que de travailler dans ces usines. Donc tout est dans la suggestion, dans la mise en scène de Joël Catineau. Et puis les comédiennes sont formidables.
Oui, on peut citer le quatuor sans doute.
Oui, allez-y.
Anne Sylvain, Valérie Beauchaud, Céline Delbecq et Blanche Van Nift.
Voilà, elles sont tellement formidables que quand les lumières se rallument à la fin, on voit que les gens ont pleuré, on voit les yeux tout rouges et les nez qui reniflent.
Ah oui, à ce point-là, ça fait vraiment oratorio, hein, ça fait théâtre de chambre, oratorio. Je suppose que c'est dans une petite salle du public.
C'est dans la salle des voûtes.
Donc il y a une ambiance intimiste.
Et c'est à voir jusqu'au 13 décembre. Ça s'appelle Les filles aux mains jaunes de Michel Bélier et une mise en scène de Joël Catineau, www.theatrelepublic.be.
Catherine, je suppose que c'est dans la même thématique que tu es partie voir Exil.
Oui, hasard du calendrier. Pour le moment, il y a une autre pièce qui parle de la Grande Guerre.
Hasard.
Oui, hasard. Disons qu'avec les commémorations, il y a des tonnes de pièces qui parlent de ça. Mais ce qui est par contre aussi un hasard, c'est que ça parle de la guerre 14-18, mais encore une fois, d'un point de vue un peu inattendu, puisque c'est le point de vue de l'exil. Donc ce sont trois récits qui parlent de ces Belges qui ont été déportés dans les camps de travail allemands, ou ces autres Belges qui ont fui la guerre et qui sont partis par exemple en Angleterre ou ailleurs. Et puis aussi de quelques Congolais, on le sait peu, mais qui se sont portés volontaires dans l'armée belge pour aller faire la guerre en croyant que ça allait les aider à devenir un petit peu belges. Croyance un peu vaine, évidemment. Mais ce qui est très beau, c'est qu'à la fin, la mise en scène tisse un parallèle entre ces Européens qui ont essayé de fuir le pays pendant la guerre, et aujourd'hui les naufragés qu'on voit au milieu de la Méditerranée et qui sont morts pour avoir essayé de fuir la guerre dans leur pays, la Syrie par exemple. Et donc on se dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des exils qui sont plus légitimes que d'autres, puisque aujourd'hui on leur ferme les portes à ces gens qui essaient de fuir la guerre, alors que nous-mêmes, enfin pas nous, mais nos ancêtres ont fui eux-mêmes la guerre.
Et comment c'est amené sur scène? Parce qu'il y a trois récits, ça veut dire trois personnages ou trois comédiens portent chaque récit, et c'est un par un?
Alors ce sont, en effet, il y a trois comédiens pour trois récits, mais les récits se mêlent évidemment, se croisent.
C'est la compagnie MAPS hein, qu'on avait déjà reçue dans cette émission et qui fait beaucoup ce travail sur les découvreurs de textes, mais aussi de correspondance aussi, je trouvais mon mot. Et on y retrouve Philippe Beheit, Stéphanie Manger et Emmanuel de Candido.
C'est tous les trois qui jouent sur scène?
Oui.
Oui. Ah, oui. Il faut savoir que Philippe Haït ne fait pas toutes les représentations. Il est parfois remplacé par Laurent Bonnet pour la tournée. Mais voilà, donc c'est à voir en ce moment. Oui. Et c'est un spectacle, je voudrais le dire aussi, déjà qui va tourner beaucoup. On est en fin de session là, du côté des Riches Claires, mais ça va voyager en tout cas.
Et ce qui est intéressant, sur Facebook, il y a un petit studio photo où on voit le public qui est amené à faire une photo avec une pancarte « Je suis un exilé » et ça fait une cartographie assez impressionnante de photos. En tout cas, c'est un beau projet qui va avec le spectacle. Et c'est à voir donc aux Riches Claires.
Jusqu'au 22 novembre. Et comme je le disais, il y a déjà des dates annoncées, notamment le 2 décembre au Centre culturel de Gette. Et puis, début 2015, notamment en février, ça voyagera à Watermael-Boitsfort, Bruxelles encore, Ixelles, et puis etc. Encore en 2015, ça va tourner.
Catherine, comme je t'ai au bout du fil, est-ce que tu n'avais pas une nuit du conte ? Est-ce que tu n'as pas parlé dans ton média d'une nuit du conte ?
Pas récemment.
Alors, non, j'ai dû lire un ancien article. Voilà. À bientôt, à la semaine prochaine.
Merci.
Ciao, ciao. On part du côté des annonces. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme spectacle ? Donc, Les Mains Sales, La Fille aux Mains Jaunes, Exil, Sainte dans l'Incendie. Ça, c'est les spectacles qu'on a vus. Et question annonce. Alors, c'est toujours intéressant de faire des annonces parce qu'il y a des spectacles qui viennent juste pour un one-shot, pour une fois. Et donc, ça vaut le coup. Moi, je vous emmène au CAI, donc le 20. C'est aussi demain avec l'autre spectacle de danse au Hall. C'est un spectacle de Fabre, un seul en scène, Fabre, avec son côté plasticien. Rien que le titre est assez drôle. Drugs kept me alive. Les drogues m'ont tenu en vie. Et donc, c'est un seul en scène assez allumé d'un comédien qui bouffe de tout, speed, coke, pills, un peu de tout. Et en fait, il parle en filigrane de la mort avec humour, avec un côté allumé, complètement déjanté, bouffeur de cam. Donc voilà, ça prend au second degré quand même. Et c'est à voir le 20, la semaine prochaine.
www.caïtheater.be, c'est demain, voilà, donc jeudi.
Voilà. Autre folie au CAI, le CAI décidément. Donc ce week-end, c'est Ivo Dimchev. Ivo Dimchev, c'était justement un ancien danseur de Fabre. C'est un artiste bulgare qui fait des performances totalement allumées, où il est souvent un peu à poil et au piano. Et lui, il est là pour nous parler de poésie, de poésie, de poésie, mais avec des actions performatives qui sont assez, assez folles. D'ailleurs, ce spectacle, Cure, et pour les 16 ans et plus. Alors, dans un de ces spectacles, ceux qui l'ont vu, ils donnaient des thunes, ils donnaient de l'argent au public si les spectateurs venaient s'embrasser sur scène. Alors moi, je l'ai vu, mon voisin est parti pour 50 euros, il est parti, un homosexuel qui, sur ce coup-là, il est parti s'embrasser à gorge déployée avec une fille pour 50 euros. Et donc, il provoque comme ça le spectateur. Je me souviens aussi d'une prise de sang qu'il a fait en direct et il la vendait comme œuvre d'art à 25 euros et ça part, le public met son argent dedans. Et ici, on me dit qu'il va un degré plus loin. Ici, c'est une cure de bien-être dans les temps troubles. Et donc, c'est un côté performatif où il risque de provoquer encore le public qui est pas vraiment c'est une vraie provocation parce que c'est spectaculaire, mais derrière tout ça, il y a tout à fait une logique, une belle dramaturgie de la poésie dans nos vies au quotidien. Ça, c'est pour le CAI, les deux allumés du CAI, hein, Fabre et Ivo Dimchev. Autre curiosité au KVS, scène flamande, c'est un spectacle sur Fayrouz, la chanteuse Fayrouz, et c'est par un collectif flamand, Union Suspecte, qui fait généralement des spectacles assez urbains. Donc je serais très étonnée de voir ce qu'ils en font de Fayrouz. Ça, c'est à voir le 21 et le 22 au Théâtre KVS. Et
www.kvs.be.
Une petite action qui est très 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 intéressante et qu'on entend peu, c'est les clowns sans frontières. Hein, oui. Vous voyez, c'est clowns sans frontières qui vont un peu partout. Et ce dimanche, à la place Flagey, il y a le festival pour le droit des enfants. Et donc, les clowns sans frontières font un peu partout, dans là où ils ont des antennes, une action. C'est-à-dire, ils vont commencer à la place du Luxembourg jusqu'au Mannequin Peace et ils vont couvrir d'un nez rouge toutes les statues qu'ils vont rencontrer sur leur coin. Et ça, c'est pour symbole pour les droits de l'enfant. C'est la journée des droits de l'enfant. Je trouve l'action assez drôle et intéressante. Donc, ouvrez l'œil dans les statues que vous voyez à Bruxelles ce dimanche.
Ici se termine la conspiration des planches. Merci Nurten. À la semaine prochaine.
Danse, oui.
Voilà. Danse, oui. On a parlé des Mains Sales, on a parlé de Sainte dans l'Incendie, de Jeanne d'Arc, donc, et de spectacles concernant la guerre 14-18. Tous les renseignements sur radiocampus.be et le podcast sur demandezleprogramme.be. Bonne semaine, bonne planche.
conspiración.